Tu vois des algorithmes partout autour de toi et c'est un phénomène qui te questionne, voire qui t'inquiète. Envie de philosopher, de comprendre les effets que ça a sur toi, jeune étudiant ? C'est génial, tu te trouves au bon endroit. On va parler de tout ça dans cette émission qui commence maintenant. Salut, toi qui m'écoutes, bienvenue. La fin d'année scolaire approche et j'imagine que t'es sous pression, probablement en train de demander de l'aide à ChatGPT. Dans ce cas, profite de ces 30 minutes créées pour toi. T'es en train d'écouter Étudiant Time, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et infos dans ta vie d'étudiant ou étudiante. Moi, c'est Myria. Je passe mon temps à me renseigner sur des tas de trucs et je me suis dit que ça pouvait être chouette de te les partager ici. Exceptionnellement, Marine ne sera pas là aujourd'hui. Elle va bien. On la retrouve dans la prochaine émission, ne t'en fais pas. En revanche, le dactylo est bien parmi nous. Alors, au programme aujourd'hui, est-ce que t'as déjà entendu parler du DUSC ? Si ce n'est pas le cas, Kelly et Astrid du dactylo t'en parlent dans le Focus étudiant. Ensuite, on recevra notre invité du jour, Armand. Bonjour Armand.
Bonjour.
Professeur de philosophie, on va se demander, peut-on penser par soi-même à l'ère des algorithmes ? J'ai très hâte. Et pour rester dans le thème des algorithmes, on terminera par les effets des applis de rencontre sur notre psyché dans la chronique santé mentale. T'as coupé le fil, t'as compris le deal. On démarre l'émission avec le Focus étudiant à propos du DUSC.
Salut toi, étudiant, étudiante ou même pro en quête de nouvelles perspectives. T'as déjà pensé aux sciences criminelles ?
Ouais, on te parle bien de criminologie, de médecine légale, de police scientifique. Tout ce qu'on voit dans les séries, mais en vrai. Si t'as déjà rêvé de marcher dans les pas de Maggie de NCIS ou de Derek Morgan dans Esprit criminel, que t'as une âme d'enquêteur ou de juriste et que tu souhaites comprendre les rouages de la criminalité, ce qui suit devrait t'intéresser. On va te parler du DUSC, le diplôme universitaire en sciences criminelles de l'Université d'Angers. Une formation complète et 100% en ligne, qui s'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels du droit, de la santé ou de la sécurité.
Le principe, te donner une vision large du phénomène criminel. On y croise le droit pénal, la criminologie, la psychiatrie, la psychologie, la médecine légale et même la police scientifique.
Franchement, c'est du solide. 150 heures de cours, de novembre à juin, avec des intervenants au top, universitaires, magistrats, psychiatres et même experts judiciaires.
Et c'est pas juste pour faire joli sur le CV, t'as des QCM à chaque module et une vraie validation. D'ailleurs, le taux de réussite de la dernière promotion a atteint les 83%, plutôt rassurant, non ?
Et le petit plus, tu peux suivre toute la formation ou juste les modules qui t'intéressent. C'est totalement à la carte, super pratique si t'as déjà un projet précis en tête.
Genre, t'es passionné par la médecine légale, mais le droit pénal, c'est pas trop ton truc. Aucun souci, tu choisis ce qui te parle.
Côté admission par contre, il faut un bac plus 2 minimum, en droit, médecine ou sciences sociales. C'est embêtant si t'es encore en terminale, mais si t'es plutôt quelqu'un qui aime prévoir ses coups 3 fois à l'avance, ça peut être pratique de savoir ce qu'il est possible de faire pour compléter une formation, même des années après l'obtention de ton diplôme. Et une fois que t'as coché ce critère, c'est une sélection sur dossier, entre le 19 août et le 4 septembre 2025. Et si t'es pris ou prise, la formation commence en novembre.
Ah, et côté tarif, prévoit 250 € si t'es étudiant, ou 3 500 € si tu suis la formation en tant que pro. Un investissement, mais clairement rentable si tu veux bosser dans le domaine aussi passionnant que celui d'Olivia Benson ou de l'équipe de Bones.
Ah, et petit rappel, les DUSC, c'est un diplôme universitaire, donc pas un master ni une licence, mais une certification reconnue délivrée par l'Université d'Angers qui te spécialise dans un domaine très recherché.
C'est clairement une valeur ajoutée, que tu sois en reprise d'études, en réorientation ou en formation continue, et ça te prépare aussi super bien pour les concours du domaine pénal. Alors si t'as toujours eu un attrait pour l'univers judiciaire, les sciences humaines, et que tu aimes analyser les comportements, fonce voir le DUSC.
Et puis, si certains ont pu faire carrière en déchiffrant les scènes de crime, pourquoi pas toi, hein ?
Toutes les infos sont sur le site de l'Université d'Angers. Et si t'as des questions, tu peux même contacter directement les responsables pédagogiques Lionel Asensi ou Caroline Duparc.
On espère que ce petit zoom t'aura éclairé sur une voie qu'on n'explore pas assez souvent et pourtant qui est super intéressante.
Surtout, prends le temps de te renseigner, de te poser des questions. Si le DUSC t'intrigue, c'est peut-être parce que la formation est faite pour toi.
Et t'en fais pas, orientation rime pas toujours avec stress, faut pas se mettre de pression. C'est normal d'être un peu perdu et de se questionner sur son avenir professionnel.
Retrouve cette chronique sur radio-g.fr, rubrique Étudiant Time. Et surtout, bon courage pour tous tes projets.
Salut !
On poursuit l'émission pour parler algorithme et libre arbitre avec notre invité du jour. À une époque où nos choix sont influencés par des écrans, où le sens du travail se perd et où penser par soi-même devient presque un acte de résistance, que reste-t-il de notre liberté intérieure ? Pour y réfléchir, je suis avec Armand, professeur de philosophie en classe de terminale à Montgazon. Bienvenue dans Étudiant Time, merci d'être là.
Merci.
Est-ce que tu peux présenter ton parcours académique en quelques mots ?
Oui, c'est un parcours assez classique. En fait, après une filière L, en 2017, je suis parti à la fac de philo de Nantes. Amour fou pour les études, mais pas trop pour le master. Et donc j'ai commencé à enseigner direct à partir de Bac plus 3, et ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne.
Entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec une mise en situation que beaucoup de gens vont reconnaître. Admettons, je scrolle sur TikTok 2 heures d'affilée. L'algorithme me propose exactement ce que je veux voir au bon moment. Est-ce que je suis encore en train de penser par moi-même ou est-ce que je suis programmée sans m'en rendre compte ?
Ben, ça met en lumière beaucoup de choses en vérité. Les algorithmes, généralement, ils vont être calculés sur ce qui nous plaise. C'est le principe même de like. Plus je like de choses, plus le contenu qui va revenir va être similaire. Là où ça devient compliqué, c'est que ça devient très addictif. C'est un petit peu comme qu'on swipe sur les réseaux sociaux ou même par exemple sur les sites de rencontres. À force de scroll, on crée de la dopamine, donc on n'est pas tout à fait libre du contenu qu'on regarde, mais parce qu'on n'est pas forcément esclave du contenu, plutôt esclave du fait de scroller.
Selon une étude du MIT de 2023, les 18-24 ans passent en moyenne 4 heures par jour sur du contenu algorithmique, et 72% d'entre eux disent qu'ils ont de plus en plus de mal à faire la différence entre une opinion personnelle et une information vérifiée. Est-ce que ça veut dire qu'on perd peu à peu notre autonomie de pensée ?
Complètement, c'est-à-dire que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que l'information est accessible en permanence et de manière instantanée. Là où ça devient délicat, c'est que ces informations ne sont pas toujours sourcées ou même sourçables. Ce qui fait que bon, on prend tout pour argent comptant. C'est rapide, c'est facile, un peu comme la fast fashion, donc il n'y a pas vraiment raison de se questionner. Donc on n'arrive plus à créer d'esprit critique. C'est tout le problème des algorithmes. Mais ce n'est pas une fatalité, ça s'apprend.
Dans l'un de tes cours auxquels j'ai d'ailleurs pu assister, tu poses cette question. Est-ce qu'il faut raisonner la technique pour sauver la nature ? Et si on l'appliquait à nous ? Est-ce qu'il faut raisonner la technique pour sauver notre liberté intérieure ?
Un petit peu les deux. Il faudrait raisonner la technique, mais surtout raisonner les hommes. En soi, le problème, il n'est pas dans le couteau, mais plutôt dans l'usage qu'on va en faire. C'est pas la technique qui est dangereuse en elle-même. Une IA ne peut pas nous faire de mal. Elle ne nous aime pas, mais ne nous déteste pas non plus. Elle va faire que ce qu'on lui a demandé. Là où ça peut être intéressant, c'est de raisonner les hommes en se disant comment est-ce que je peux utiliser à profit l'IA, les algorithmes, pour que ça me serve. Faut que ça reste un outil, pas que ça devienne une dépendance.
Et justement, cette fameuse liberté intérieure, elle est souvent confondue avec autre chose. Aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup de jeunes se disent être the main character. Tu sais, cette impression d'être le héros d'un film, le personnage principal. Mais est-ce que c'est vraiment une forme de liberté ou une illusion fabriquée par l'algorithme ?
En fait, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a une liberté, mais qui est complètement désillusionnée. Et en même temps, c'est fabriqué par l'algorithme. À force de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, il y a un vrai problème qui se crée. C'est qu'on devient très... on va dire allergique à la frustration, allergique au fait de se comparer aux autres, donc on n'hésite pas à romancer sa vie. C'est difficile, hein, c'est vrai, mais c'est aussi en grande partie à cause du contenu de la fast fashion. Tout doit être rapide, tout doit être immédiat. Donc on a du mal à prendre du recul sur les choses, et parfois même sur nos propres émotions. On se comprend plus trop, on discute plus trop, ou alors on discute pas assez. C'est les réseaux qui nous servent un petit peu de didactographie, et c'est là où ça devient délicat. Pour nous, on a du mal à s'exprimer.
Je pense au stoïcisme ici qui nous invite à nous détacher du regard des autres pour retrouver une forme de liberté. Est-ce que tu penses que les réseaux nous éloignent de cette idée ?
Un petit peu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça pourrait être une épreuve. Le but, ça serait de se réapproprier un petit peu la manière dont on se perçoit au regard des réseaux sociaux. Plutôt que de diffuser son image et à arriver dans un contenu qui pourrait être à la limite étymologique de la pornographie, c'est-à-dire vendre son image, un petit peu se détourner d'une image de soi, ça serait au contraire de dire « voilà ce que je suis, mais j'ai pas forcément besoin de le partager. Je peux aussi le garder de moi à moi ou avec mes proches, ça peut être tout aussi bien. »
On va faire une petite pause ludique avec un format populaire en soirée. Tu préfères version philo. Donc tu dois répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Bon, compliqué pour un prof de philo, je sais, mais on va tenter. Tu préfères penser librement mais être seul ou suivre la masse et être aimé ?
Librement mais être seul. Suivre la masse, ça peut rendre que malheureux.
Et ça me fait penser à la pression sociale dans l'orientation. Beaucoup d'étudiants disent qu'ils n'ont pas vraiment choisi leur voie, notamment avec Parcoursup. Un parent qui pousse, un master qu'on prend par défaut. Est-ce qu'on peut vraiment parler de choix dans ce contexte ? L'INJEP a publié une enquête en 2022. 39% des étudiants en L1 disent ne pas avoir choisi leur voie librement et 28% envisagent une réorientation dès le premier semestre. Tu penses que le système Parcoursup notamment simule un choix plus qu'il ne le garantit ?
Ben, en vrai, oui. Déjà, le problème de Parcoursup, en lui-même, en tant que structure, c'est qu'il ne permet pas aux étudiants de se figurer le monde de l'enseignement supérieur. En fait, déjà, tout se joue dès le mois de mars. Dès le mois de mars, on doit avoir normalement des dossiers prêts pour Parcoursup, avec les notes de l'année de première et de l'année de terminale, qui déterminent déjà là où on va être pris. En plus de ça, le problème de Parcoursup, c'est qu'il nous indique des chiffres sur le taux d'admission effectivement supposé, mais dans les faits, c'est pas le cas. On a par exemple des candidats qui ont 98% de chances d'être admis et qui sont pas admis. Dans les 2%, c'est quand même assez rare. Ce qui fait que cette réorientation, elle est très fréquente. L'autre problème de Parcoursup, et c'est là où ça touche vraiment les élèves dans la réorientation, c'est qu'il ne prend en compte, pour la première année et la première inscription, que l'année de première et le premier semestre de terminale. Mais si on décide de se réorienter, il y a le deuxième semestre de terminale qui compte, qui est souvent abandonné par les élèves au mois de mars. Donc il y a une vraie désinformation là-dessus et donc un mécontentement chez les élèves, ça c'est tout à fait logique.
Donc au fond, est-ce qu'on peut encore écouter notre désir dans un monde où tout nous pousse à faire des choix stratégiques pour réussir ?
Ben en fait, c'est pas tant qu'on peut le faire, mais il faudrait le faire, mais les élèves ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faudrait revoir le programme en amont. Bon après, on a bien une structure politique qui veut qu'on s'intéresse à l'orientation dès la primaire, et c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Mais là où ça peut être encore plus compliqué, c'est que les élèves n'ont même pas la chance, déjà dès la première ou la terminale, de savoir ce qu'ils veulent faire. Tu parlais tout à l'heure de filières par défaut, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on prend les filières qui sont déjà plus ou moins présentées dans les lycées dans lesquels on va, et puis après on prend un petit peu ce qu'on a à boire et à manger, mais ça suffit jamais vraiment. Ce qu'il faudrait, ça serait reformuler complètement Parcoursup, encourager beaucoup plus les étudiants à faire des universités à l'essai. Je sais que ce genre de dispositifs sont proposés, sauf que là, ça devrait être imposé, un petit peu comme le stage de 3e, histoire de se rendre compte de ce que vaut la filière. Parce que le nombre d'élèves qui, à partir du mois de novembre, tu parlais du premier semestre, mais c'est bien avant ça, dès le mois de novembre, ils arrêtent. Quelles sont les facs où les directeurs disent « Regardez votre voisin de gauche, d'ici 2 mois, il ne sera plus là ».
Oui. Est-ce que tu penses d'ailleurs que l'école valorise les bons élèves au lieu de ceux qui aiment vraiment apprendre ?
En vérité, c'est ça qui est problématique. Les bons élèves, c'est ceux qui aiment apprendre, mais c'est pas souvent ceux qui ressortent dans les dossiers. Le système scolaire sera un petit peu à refaire dans le sens où on évalue la bonne note plutôt que le processus d'apprentissage.
On n'a pas la bonne définition du bon élève.
Non, du tout. Bah, c'est pour ça qu'un élève qui triche va tricher pour avoir une bonne note plutôt que d'apprendre par lui-même et avoir 12.
Tout à fait. Troisième et dernière situation. Admettons, je bosse au McDo à côté de mes cours. J'ai besoin d'argent, c'est vital. Mais parfois, j'ai l'impression que ce boulot me vide. Est-ce que ce travail me construit ou est-ce qu'il m'abîme ?
En vérité, le travail peut donner un vrai sens aux études, parce que quand on fait des études, souvent on sacrifie beaucoup de choses pour les réaliser. C'est difficile, parce que c'est dur d'être étudiant au 21e siècle, et encore plus dans la période actuelle. Tout est cher, tout est difficile, et travailler n'est pas une option. Pour certains, c'est une nécessité. Le problème, c'est que parfois le travail peut prendre trop de place, plus que les études. C'est dur de juger l'épanouissement entre un élève qui travaille et un élève qui ne travaille pas. Ce qui est important, c'est d'accorder une place très particulière au travail. Il faut que le travail soit un moyen de justifier les études en se disant « je travaille pour ça » et non pas travailler pour vivre, pour faire des études. Il faut vraiment que les deux soient corrélés pour qu'on puisse trouver une force commune aux deux.
Marx parlerait d'aliénation ici. Toi, comment tu le vois ? Est-ce que le travail donne encore du sens à nos vies aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faut chercher du coup ce sens ailleurs, comme un peu ce que t'exprimais là ?
Ben en fait, ouais, clairement, il faut trouver un petit peu ce sens ailleurs. C'est-à-dire que le travail en lui-même, il va forcément nous aliéner, mais même les études, c'est déjà le cas. On pourrait poser la question à des étudiants, et je pense qu'on pourrait dire sans se tromper qu'il y en a plein qui sont en études, mais qui ne savent pas vraiment concrètement pourquoi ils sont là. Alors si, ils te diront que sur Parcoursup, ils ont pris droit parce que ça leur plaît, parce que c'est ceci, c'est cela. Mais dans les faits, ils ne veulent que le diplôme pour avoir le diplôme. C'est rare d'avoir des élèves qui vont se dire « je veux faire ça plus tard ». Les études, tout comme le travail, ça aliène, mais ce n'est pas une fatalité, ça s'apprend. Ça fait partie un petit peu du monde des études, faire des rencontres, rencontrer des opportunités pour donner du sens à sa vie. C'est ça qui est problématique. Le travail et les études sont si oppressants que parfois ils nous privent de sens. Là, l'objectif, ça serait vraiment d'en trouver un ailleurs que dans le travail et dans les études. Le bonheur, l'épanouissement, quoi.
Tu m'as parlé un jour, vraiment hier, de la différence entre travailler pour vivre et travailler pour bien vivre. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là ?
Oui, complètement. Alors là, on s'adresse un petit peu aux étudiants, mais même aussi aux actifs. Le problème de travailler pour vivre, c'est que c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous. C'est le principe de travail alimentaire. Mais il ne faudrait pas travailler pour vivre, mais travailler pour bien vivre. C'est dur de trouver un métier qui nous plaît, c'est vrai, mais c'est pas impossible. Il faut parfois chercher là où on s'y attend pas, l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Il faut pas avoir peur de tenter ou de saisir les opportunités. Ce qui est difficile, c'est que pour bien vivre, il ne faut pas forcément apprécier son travail, il faut apprécier de se dire qu'on a accompli la bonne chose à faire, qu'on a accompli quelque chose qui nous rend heureux ou du moins qui ne nous rend pas malheureux. C'est ça qui est difficile aujourd'hui parce qu'avec toute la pression qu'on peut avoir dans les études, tu parlais de famille tout à l'heure qui parfois impose un certain corps de métier à leurs enfants, c'est compliqué et ça s'entend. Donc ce bonheur doit se trouver ailleurs. Il faut parfois fuir un petit peu cette réalité sans être non plus dans le syndrome du main character dont on a un petit peu parlé, mais au moins, chercher quelque chose qui nous plaît et se dire que ça au moins c'est maintenable dans le temps.
Allez, pour finir, je te propose un dernier petit exercice. Je te lance une phrase. T'as une minute max pour réagir, pas plus. Hein. Okay. Sinon, t'exploses. Bim.
Ok, bah, c'est parti.
Est-ce que l'IA va tuer la philosophie ?
Non, pas du tout. Ça va être un bon outil. Ça va nous permettre de réfléchir plus précisément sur certaines choses.
Est-ce que TikTok, c'est l'opium du monde moderne ? Petit clin d'œil à Marc sur la religion.
Alors, ça dépend. Si c'est pour regarder des refs ou des petits chiens, effectivement, ça peut l'être. Mais il y a de très bonnes choses sur TikTok. Il y a des grands penseurs, tout comme des conférences qui peuvent être dessus.
Et surtout des super mèmes extrêmement drôles. Non, je rigole. Oui, t'as raison. Ça dépend évidemment de ce qu'on consomme. Pour conclure, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais t'adresser à un ou une étudiante qui doute, qui se sent perdue, qui a l'impression de ne pas vraiment avoir le choix, tu lui dirais quoi en une phrase ?
N'aie pas peur de continuer, tout va bien se passer, il faut juste que tu choisisses ce qui te plaise.
C'est mignon. Un grand merci Armand d'avoir été là dans l'émission.
Merci de m'avoir invité.
J'espère que ça pourra questionner des auditeurs, voire même les inspirer. C'est le moment de la petite pause musicale bien méritée, complètement dans le thème avec l'addiction à nos écrans. Voici « Amour, haine et danger » de Angèle.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs t'évites le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne notre avis surtout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai. T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et danger, dans un objet. Dans un objet, tout ça dans un objet. Tu peux pas t'en empêcher, dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et danger, On me dit que je suis addict, c'est pas ma faute. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
T'as compris le deal.
Amour, haine et danger de Angèle. Bon retour parmi nous sur Radio G, vous écoutez Étudiant Time.
Le journal.
Bonsoir Simon.
Bonsoir Fahadi, bonsoir à tous. Tout de suite votre sommaire de ce vendredi 16 mai. Un Angevin se distingue au trophée UNFP, le GIGN en entraînement grandeur nature et des mesures de prévention renforcées face aux loups.
En football, un joueur emblématique du SCO remporte le trophée du joueur citoyen à 38 ans.
C'est une belle récompense pour une légende du SCO d'Angers. Dimanche dernier à Paris, lors de la 33e cérémonie des trophées de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, Pierrick Capel a reçu une agréable distinction. Le joueur de 38 ans s'est vu remettre le trophée Fondation du football du joueur citoyen en Ligue 1. En effet, au-delà de ses 300 matchs avec les Noirs et Blancs, Pierrick Capel œuvre depuis plusieurs années afin d'aider les enfants défavorisés à Madagascar. Il a d'ailleurs construit une école afin d'améliorer l'enseignement et l'éducation sur place. Le milieu de terrain a précisé que, je cite, « c'est d'abord une affaire familiale car mon beau-frère est malgache. Le but est d'améliorer un peu la vie de ses enfants en créant une école à Majunga ». L'attaquant angevin Esteban Le Poll était également nommé pour le trophée du plus beau but de la saison. Sa reprise de volée face au Paris Saint-Germain avait été retenue parmi les nominations. Malheureusement, c'est le Marseillais Amine Gouiri et sa retournée acrobatique qui a récolté le plus de votes.
Alerte ou simple entraînement, un impressionnant déploiement du GIGN a surpris les Angevins.
C'est un exercice de grande ampleur qui s'est déroulé à Angers. Mardi 13 mai, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale de Nantes a mené une vaste opération d'entraînement grandeur nature. C'était une action menée en collaboration avec le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie d'Angers. Dans les airs, un hélicoptère de la Gendarmerie a survolé durant plusieurs heures Angers et son agglomération à basse altitude. Sur terre, près d'un lycée à Saint-Sylvain d'Anjou, une descente en rappel a été effectuée. Cet événement, assez impressionnant, a permis de tester les capacités des réactions de ces groupes d'intervention en milieu urbain. Malgré l'impressionnant dispositif, la gendarmerie a rapidement précisé qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement. L'objectif est de maintenir de manière constante les compétences des effectifs. Un rôle essentiel car le GIGN est spécialisé dans la gestion de crises dangereuses, ce qui demande un savoir-faire très particulier.
Le retour du loup dans nos campagnes inquiète les éleveurs et la préfecture passe à l'action.
C'est une présence qui inquiète les éleveurs. Le loup a fait son grand retour dans nos campagnes. Cette semaine, face à la pression, la préfecture de Maine-et-Loire a renforcé sa prévention en publiant un nouvel arrêté. Des mesures vont être mises en place dans 27 communes du Maine-et-Loire. Plusieurs communes passent en cercle 2 dans le nord du département, ainsi qu'autour de Poincé et Cholet. La préfecture précise que les cercles 2 correspondent à, je cite, « des zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours ». C'est l'Office français de la biodiversité qui a alerté de la présence du loup sur notre territoire. Une photographie prise à la Séguinière avait été largement diffusée en décembre 2024. À ce jour, ce cliché reste cependant la seule preuve visuelle de la présence du loup en Maine-et-Loire.
Minute, c'est pas fini, laisse-moi te parler des effets des applis de rencontre sur notre psyché ou quand l'amour devient un algorithme. C'est l'heure de la chronique santé mentale du jour. Swipe, match, ghosting. En 2025, 63% des 18-25 ans utilisent ou ont déjà utilisé une appli de rencontre, d'après l'IFOP en février 2025. Une solution à la solitude ? Pas si sûr, car derrière les likes et les profils bien lissés, les conséquences sur la santé mentale sont bien réelles. Aujourd'hui, on parle de solitude étudiante, de recherche de validation, d'intolérance à la frustration et d'une vision algorithmique de l'amour qui peut abîmer. Les applis comme Tinder ne sont pas pensées pour faire naître l'amour, elles sont pensées pour retenir notre attention. C'est ce que montre l'enquête de Judith Duportail, journaliste et autrice du livre « L'amour sous algorithme ». Après avoir demandé ses données à Tinder, elle découvre qu'on est classé, scoré, noté via un desirability code, score, opaque. Résultat, on se compare, on essaie de plaire à l'algorithme et quand on ne matche pas, on doute de soi. Une étude de l'American Psychological Association en 2024 confirme que les utilisateurs réguliers rapportent plus de symptômes dépressifs, d'anxiété sociale et de troubles de l'image corporelle. On zappe un être humain comme une story. On swipe non pas pour rencontrer, mais pour ressentir un pic de dopamine, comme sur TikTok. Mais derrière l'effet shoot, on devient plus vite plus frustré, plus seul. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann parle d'amour jetable. Dès que ça devient complexe, on passe au profil suivant. L'intolérance à la frustration explose. L'autre n'est plus un sujet, c'est un service. Et dans les études supérieures, où la charge mentale est forte et la solitude fréquente, ça touche en plein cœur. Dans une culture de la fluidité, s'engager devient presque honteux. Dire « je t'aime », faire une preuve d'attention, écrire un poème, devient vite « cringe ». Or, l'être humain a besoin de s'ancrer, de se sentir choisi, de faire l'expérience d'un amour réciproque. Mais les applis brouillent ce lien. On croit que mieux nous attend au prochain swipe, on devient intolérant à la frustration et on développe ce que les psys appellent une hyper-disponibilité émotionnelle sans implication réelle. On est donc ouvert, mais à rien. Alors pourquoi on ouvre l'appli ? Ennui ? Solitude ? Besoin de valider le fait qu'on puisse plaire ? Revaloriser l'idée d'engagement comme un choix libre et pas comme une prison pourrait être la solution ? Cultiver des liens sociaux en présentiel ? La solitude se soigne par la présence et pas par un écran évidemment. Et surtout, oser le romantisme, celui qui assume d'être vulnérable et sincère. Les applis peuvent être une porte, mais si on y entre sans conscience, elles deviennent un labyrinthe. L'amour commence là où les algorithmes s'arrêtent, dans l'imprévu, le réel, l'humain. Le dactylo, Armand, merci à tous. Armand, première fois à la radio, comment ça a été pour toi cette petite demi-heure d'étudiant time ?
C'était très intéressant, c'est particulier de participer à une émission de radio et d'être dans une salle un petit peu comme celle-là, j'avoue.
En tout cas, je trouve que tu t'es hyper bien débrouillé, c'était merci. Très intéressant, merci à toi. En résumé, aujourd'hui, on a parlé du DUSC dans le Focus étudiant. On a reçu donc Armand, prof de philo, dans le studio pour discuter des algorithmes et du libre arbitre. Et on a conclu l'émission en expliquant les effets des applications de rencontre sur notre psyché dans la chronique santé mentale. Tu peux retrouver la rediffusion de l'émission sur radio-g.fr dans la rubrique Étudiant Time. J'espère que ça t'aura intéressé autant que nous. Étudiant Time, c'est à 13h un mardi sur deux. Bon courage pour les révisions, pour la recherche de taf et à très bientôt. Vous êtes bien sur Radio G. Je vous laisse avec un extrait de Muse avec le titre The Handler. Translate.